Merci beaucoup. Vous avez vu, nous étions bien dans la continuité par rapport à ce matin. Alors, on va bien sûr passer à des questions, mais moi, je voudrais vous en poser une tout de suite. Enfin, il y a un terme qui m'a accroché à la fin quand vous parlez de post-démocratie. Bon, la démocratie, voilà, mais si on doit vivre en post-démocratie, dans quoi vit-on ? C'est quoi la post-... Enfin, qu'est-ce que ça peut... La post-démocratie, ça me pose... Voilà, post-démocratie, ça...
Alors, c'est un terme qui a été popularisé au moment de la crise de la dette, au moment de la crise grecque, où beaucoup des décisions sont passées par ce qu'on appelait péjorativement la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, au sein desquelles, alors c'est plus tout à fait vrai pour la Commission, mais au sein desquelles il n'y a pas vraiment de représentants du peuple, il n'y a pas vraiment d'élus, qui pourtant viennent dicter toute une série de mesures qui doivent être respectées par les États. Donc le terme a été popularisé à ce moment-là, au moment de cette crise, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que les démocraties sont complètement paralysées du fait de ce type de schéma. Mais ces schémas ne sont pas complètement compatibles avec les idéaux et les principes qui sont ceux de la démocratie. Donc ça renvoyait à ça. Ici, évidemment, un schéma qui serait autre que temporaire, où les experts auraient le pouvoir, ce qu'on appelle la technocratie, évidemment que ce sont des pas qui vont vers une sortie tendancielle d'un schéma strictement démocratique, évidemment. Et donc, c'est de là que vient... en tout cas, l'expression de post-démocratie a été popularisée à ce moment-là, est revenue tambour battant au moment de la crise de la dette, et en particulier de la crise grecque. Ouais.
D'accord, mais c'est un peu vertigineux, parce qu'on se dit, voilà, est-ce que c'est une autocratie ? Est-ce que c'est une... Enfin, voilà, c'est quoi ?
Mais ce sont toutes ces tendances qui, pour régler toute une série de problèmes, contournent les principes mêmes de la démocratie.
Que l'on va faire au niveau des questions aussi, excusez-moi, je voulais poser celle-là, mais on va en prendre peut-être 3 ou 4. Ça permettra peut-être par rapport à ce matin de répondre aussi à davantage. Donc, rassembler 3-4 questions.
Bonjour, Louis, je suis de la JOC de Nantes. Et je voulais vous poser une question. En 2018, plusieurs organisations écologiques ont attaqué l'État en justice dans le cadre de l'affaire du siècle, suivi par une pétition de plusieurs milliers de citoyens. Je voulais savoir si, et du coup, l'État a été condamné en 2021 et le tribunal administratif a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour régler la crise climatique. Je voulais savoir si l'État de droit démocratique, selon vous, peut être la solution avec nos institutions actuelles de régler des urgences grâce à des contre-pouvoirs importants et donc avec une séparation des pouvoirs, de régler des situations d'urgence que le gouvernement prend en charge et d'autres que le gouvernement préfère ignorer ou choisit de faire passer au second plan. Je vous remercie.
Bonjour, Lubukomi Ankeba, donc des Yvelines. D'abord, merci pour votre brillant exposé. Donc, comme on disait tout à l'heure ce matin aussi, on a l'air d'être plus intelligent. Mais le problème, c'est que chez moi, ça ne dure pas longtemps. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va l'être. Plus sérieusement, je voulais savoir, est-ce que dans ce que vous dites, ça ne renvoie pas non plus, ça ne renvoie pas la question du conflit entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction ?
Dans le cas de la prison de Guantanamo, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi... à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, et on ne peut pas dire que ça soit aussi très provisoire. Je m'appelle Jean-Denis Renaud. Suisse. Je viens de Suisse.
Bernard Hédon, Montpellier. On a l'impression qu'un certain nombre de restrictions de liberté prises dans le cadre de l'état d'urgence, en fait, ne nous gênent pas, nous, en tant que citoyens, que je qualifierais, excusez-moi, entre guillemets, de « normaux ». Et que ça restreint les libertés de ceux qui désiraient commettre des attentats terroristes, par exemple, mais pas tellement les autres. Est-ce que je fais erreur en pensant cela ? C'est-à-dire que sans m'en apercevoir, il y a une restriction forte de nos libertés quotidiennes ? Ou alors, est-ce que ces lois exceptionnelles finalement, si elles entrent dans notre quotidien, ne peuvent pas être intégrées dans le cadre de l'état de droit uniquement pour maintenir une meilleure sécurité.
Je pense que je peux déjà répondre. Merci pour ces questions. Je vais commencer par celle sur Guantanamo, parce qu'en fait, le point de départ de l'auteur que j'ai mentionné, du philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, vis-à-vis duquel je suis très critique en réalité, l'un des points de départ de sa réflexion, c'est justement Guantanamo. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « État d'exception ». Voilà, c'est pas très original, dans lequel il fait à la fois un historique des états d'exception et il vise à éclairer la situation actuelle, enfin, au moment où il écrit, et la situation actuelle, c'est notamment Guantanamo et le régime juridique ultra-exceptionnel que constituait Guantanamo, qui pour lui entre complètement dans les états d'exception, dans ces régimes exceptionnels. Il va très loin, puisqu'il va jusqu'à soutenir que le paradigme du camp, dit-il, donc du fait de d'isoler certaines personnes qui sont des dangers pour la société, serait notre paradigme aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à dire que la démocratie, disons que la face d'ombre, à son sens, de la démocratie, ce serait l'existence de ces camps. Des camps de migrants, des camps où on enferme des terroristes, et il va très loin. Et on n'est pas obligé de le suivre jusque-là, puisqu'il va jusqu'à dire que les confinements auxquels on a assisté vont dans ce même sens. Hein, on n'est pas obligé de faire feu de tout bois et de penser que tout ça est comparable, mais il va, lui, jusqu'à affirmer ce genre de choses. Donc, si on regarde le Patriot Act et l'ensemble des textes politiques et juridiques qui l'ont accompagné, ce Patriot Act avait vocation à être ultra limité. Il a été prorogé pendant 11 ans. Et il a fallu attendre très longtemps, enfin très tard, avant que Guantanamo soit partie démantelée. Donc effectivement, que tout ça entre dans ces questions de la gestion des crises. La difficulté, elle est en fait ici, c'est-à-dire que c'est un outil, nous disent les juristes, qui est un outil, comme je vous le disais, qui a vocation à régler des crises temporaires. Sauf que même dans la justification de l'usage, chez les hommes et les femmes politiques, on nous dit que ce sont des crises longues et que donc on a besoin de prolonger cet état d'urgence. On voit bien ici qu'il y a comme une dissonance, évidemment, puisque on peut difficilement, vu l'état de l'outil, disons, de la technique juridique, on peut difficilement nous dire qu'on va gérer des crises longues à l'aide de cette technique, puisqu'elle n'a pas vocation à ça. Donc c'est ça que donc toute une série de juristes que j'ai pu mentionner là, enfin je pense notamment à Stéphanie Hennette Vaucher, mais aussi à Marie-Laure Basilien Guinche, qui sont des spécialistes de ces questions d'état d'exception et qui pointent du doigt ces difficultés ici. Alors, il était question aussi est-ce que, monsieur demandait, j'ai oublié votre prénom, je suis désolé, ici à ma gauche, si les libertés qui étaient les plus touchées n'étaient pas celles, dans le cas de la gestion de la crise terroriste, n'étaient pas celles des terroristes davantage que les nôtres. Il y a plusieurs choses sans doute à dire ici. D'abord, si vous regardez, il y a au moins deux choses. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, à la gestion de la crise pandémique, pour commenter celle-là, les privations de liberté, donc être contraint de rester chez soi, donc la limitation de la liberté de circuler, est évidemment une atteinte qu'on a tous vécue de manière assez pénible, mais cette pénibilité, elle n'est pas la même si vous avez un très grand jardin ou si vous avez 3-4 frères et sœurs et que vous vivez dans un 25 mètres carrés. Évidemment que dans ces cas-là, il y a tout d'abord la liberté au sens juridique, si vous voulez, puis il y a les inégalités sociales qui peuvent découler de ces restrictions de liberté. Et ici, il y a essentiellement ça qu'on a pu ressentir. Et puis, on l'a tous aussi un peu vécu. Il y avait quelque chose comme un climat et on l'a tous aussi ressenti. C'est un climat de délation où on voit des gens qui respectent pas, et nous, comme on respecte, ben ça nous fâche, évidemment, et où entre citoyens, les tensions sont extrêmement palpables du fait notamment de ces restrictions. Mais tout ça Tout ça, on l'a ressenti les uns et les autres. Alors, par rapport aux attentats terroristes, ben, la difficulté, c'est que c'est pas simplement les terroristes avérés qui sont mis en cause. C'est aussi ceux qui sont supposés, évidemment, ou susceptibles de l'être. Toute la difficulté, elle est ici, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est tous. Il y a toujours potentiellement, et c'est ce qu'on a vu dans les lois de prorogation, hein, ce qu'on a vu effectivement, puisqu'il y a toute une série de, par exemple, les pouvoirs de police se sont accrus et fondés, articulés dans le droit commun, où on a étendu ces possibilités de perquisition, d'intervention, ce qui fait que là, c'est pas simplement les terroristes qui sont visés et mis en difficulté, c'est tous ceux qui potentiellement pourraient contrevenir à l'intégrité de l'État, quand bien même ils ne l'auraient pas fait. Alors, il y avait aussi, la question sur l'éthique de responsabilité, éthique de conviction. Est-ce que monsieur pourrait développer ce qu'il voulait dire, soit que je puisse. Je suppose que vous renvoyez à la distinction weberienne entre.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on apprend des responsabilités, c'est effectivement un impact sur un certain nombre de libertés. Parce qu'à un moment donné, se rendu compte, dans l'éthique de conviction, les gens sont convaincus de leur liberté, de leur bon droit. Au fait, de toute façon, c'est en quelque sorte, je dis ça de manière caricaturale, c'est d'abord, moi d'abord, mes convictions, et je vais aller jusqu'au bout de cela. Tandis que leur responsabilité, l'éthique de responsabilité nous pousse aussi, en fait, par, je vous renvoie dans Marx Weber, qui dit, de toute façon, finalement, quelque part, il faut que je voie aussi l'intérêt commun, quoi. Voilà, c'est dans ce sens, cette articulation-là que je voulais voir développer.
Oui, mais ça nous renvoie un peu aussi à ce qu'on disait ce matin. Il y a de toute façon une tension qui est pas irrésoluble, hein, mais il y a de toute façon une tension entre l'intérêt collectif et les intérêts individuels. Cette tension, elle existe, et il y a effectivement toute une série d'arbitrages qui peuvent être faits et qu'on se doit de faire. Mais ce que j'essaie ici de promouvoir gentiment, c'est de s'en remettre et d'en passer par des schémas qui sont à proprement parler ceux de l'état de droit pour faire ces arbitrages, si vous voulez. Et donc de s'en remettre à la délibération publique. Dans cette, alors c'est évidemment à repenser, hein, Céline nous le disait ce matin, ça va pas de soi, la manière dont on articule la démocratie représentative aux outils délibératifs, hein, puisque les outils délibératifs sont nés sur la crise de la représentation, le fait que les citoyens ne se sentent plus complètement représentés, voire pas du tout pour certains représentés, et l'idéal participatif et l'idéal délibératif ont vocation justement à s'articuler à cela. Et tout ça est évidemment à penser, ce sont des chantiers, tout ça est en chantier, ce sont des chantiers à penser, ce qui m'amène à la première question, qui là est un vaste chantier évidemment, puisque il y a là aussi une tension qui est assez manifeste entre l'urgence qui est celle de la crise écologique et les dégâts durables, irréversibles surtout, qu'elle peut causer, et les outils qu'on a à disposition pour régler cette crise. C'est-à-dire, est-ce que le temps de la démocratie et aussi la logique de la démocratie, qui en voudrait d'en passer par non seulement le temps long de la délibération, mais aussi potentiellement le fait que, au terme de la délibération, eh bien, on se dise que ben, finalement, non, on fait rien. Donc, puisque la démocratie délibérative, ce qui fait que c'est démocratique, ce n'est pas le résultat de la décision. C'est la procédure qu'on va respecter pour déboucher sur un résultat. Donc le résultat, il n'est pas connu. On peut très bien déboucher sur des résultats qui ne vont pas être satisfaisants eu égard aux dangers auxquels on fait face. D'où aussi, c'est aussi cette logique-là, qui n'est donc pas la logique à proprement parler de la démocratie, qui est mise à l'œuvre pour gérer la crise sanitaire. Parce qu'évidemment que ici il y a une asymétrie des savoirs, et c'est nullement questionnable. Sans doute que le virologue ou l'épidémiologiste sait mieux que nous quel est l'état de cette situation et ce qu'il y a lieu de faire. Donc vous voyez bien ici qu'il y a une vraie tension quant à comment régler démocratiquement une crise longue et donc à la fois longue et aussi hyper urgente, où il faut réagir hyper rapidement, qui est la crise écologique. Alors là, c'est un chantier colossal où la recherche est complètement sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une littérature aussi ici qui est extrêmement abondante, avec beaucoup de projets de recherche sur ces questions. Comment articuler, si vous voulez ici, le temps démocratique au temps de la crise. Et on a à la fois des recherches, non seulement ça intéresse les philosophes, mais ça intéresse aussi, par exemple, les spécialistes de politique publique qui sont en plein sur le sujet. Ça en est devenu une quasi-sous-discipline de la science politique. Hein. Ces questions-là sont devenues, c'est un domaine hyper vaste où on réfléchit à quelles techniques mettre en place pour que on ne tombe pas, si vous voulez, dans la dictature écologique et qu'on respecte les impératifs qui sont ceux de la démocratie. Oui, et lesquels? Lesquels respecter plus que d'autres? Comment? En étant plus ou moins créatif. Et là, effectivement, il y a toute une série de solutions qui peuvent être avancées par des spécialistes, ou en tout cas de projets de recherche qui existent sur ces questions. Des pistes que je ne connais pas, malheureusement. Puisque ce sont des préoccupations sur lesquelles je ne suis pas qualifié, disons.
Mais Vincent Peluzzo, de la JOC Nantes. Voilà, je voulais savoir, selon vous, quel est le rôle des médias, au sens les médias mainstream, comme on dit, c'est-à-dire grande échelle, dans la restriction des libertés publiques et notamment dans son acceptation par les citoyens. Et ma question, c'est plus précisément, enfin, est-ce que le traitement des informations par les médias ne contribue pas à menacer la démocratie et nos libertés?
Moi, je vous, Hélène, Damien, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre une désobéissance civile dans l'état de droit et une désobéissance civile dans les états d'exception?
Philippe Mouy, je suis de Grenoble. Ce matin, on a été alerté dans la première intervention avant Céline, Cécile, sur la tension entre liberté et sécurité. Et moi, ma question, elle est que y a Benjamin Franklin qui dit une belle phrase: un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et il finit par perdre les deux. Alors, ma question, elle est plutôt en rapport avec le troisième élément que vous avez évoqué de l'État démocratique, la souveraineté populaire. Est-ce qu'il ne manque pas, quand même, dans nos sociétés, peut-être post-démocratiques, une place plus grande à l'expression de cette souveraineté populaire? Parce que si on écoute certains partis politiques, il faut mettre en avant la sécurité, hein, et on ne parle pas du tout de la liberté, ou on en parle de façon négative, les autres n'osent pas peut-être se prononcer sur la liberté dans sa dimension collective, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, Florence d'Orléans. En fait, moi, j'avais plutôt un commentaire, plus qu'une question, sur le dernier point qui était le pouvoir pris par les experts. Mon observation, mon constat dans la crise sanitaire, c'est que ce pouvoir a été limité à des experts très pointus, puisque c'était un problème de santé, les médecins, les infectiologues, les virologues, les épidémiologistes. Mais en fait, très vite, à partir du moment où cette crise s'est prolongée, elle a eu un impact sur tous les aspects de la société. Et pour faire référence à Morin qui disait comment faire face à un monde complexe, il me semble que dans les prises de décision, ce qui a manqué justement, ou en tout cas dans le premier semestre 2020, ce qui a manqué, c'est de faire appel à d'autres savoirs que le pouvoir médical ou épidémiologiste, les sociologues, les psychologues, les éducateurs, j'en passe des meilleurs. Et il me semble que ce serait très important dans les crises prochaines qu'il y ait un panel d'experts et pas juste une discipline scientifique qui soit représentée.
Oui, alors je pense que dans la dernière version du conseil scientifique, il y avait un psychologue et un sociologue, non, c'est ça? Voilà. Mais effectivement, en tout cas, là aussi, c'est une vraie question de penser. C'est-à-dire que ça paraît quand même illusoire de faire complètement l'économie de ce type de comité, puisqu'effectivement, on a besoin de ces savoirs pour régler des crises qui sont en fait des crises techniques aussi. Et donc, c'est complètement illusoire de penser qu'on va passer à côté de ces savoirs-là, des savoirs qu'on ne possède pas, mais qui peuvent quand même être mis en débat d'une manière ou d'une autre. Et on peut réfléchir à la manière dont on constitue ces comités. Donc effectivement, s'il y a quelque chose là à réfléchir, c'est comment constituer ces comités, parce que ces crises ne sont pas simplement sont des crises longues, donc qui ont des impacts, comme vous l'avez dit, sociaux, psychologiques, et qui impliquent aussi des savoirs de ce type, et dans les arbitrages politiques, et non pas strictement scientifiques, mais dans les arbitrages politiques, dans les décisions politiques qu'il faut prendre, il y a plus d'un paramètre à prendre en considération. Il y a d'abord dans l'urgence évidemment le paramètre sanitaire, et puis quand les crises commencent à devenir longues, il y a aussi ces autres paramètres à prendre en considération, bien évidemment. Alors je vais répondre à la première question, qui est évidemment une question hyper intéressante, et mais aussi massive bien sûr, qui est celle du rôle des médias, de la manière dont les médias mainstream vont contribuer ou non à restreindre nos libertés. Bon, il y a plusieurs, si vous voulez, en sociologie politique, dans la manière avec laquelle on envisage la place et le rôle des médias. Il y a plusieurs lectures possibles. Longtemps, une lecture plutôt bourdieusienne de gauche des médias était de dire que les médias étaient les gardiens du temple. C'est-à-dire que quand on regardait le temps d'antenne d'un membre du gouvernement ou d'un syndicaliste, il n'y avait pas photo. Évidemment, il y avait quelque chose comme les médias constituaient une sorte de filtre à l'accès à cette parole. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on pense l'espace public, on le pense pas au sens de l'espace médiatique. C'est pas à strictement parler l'espace médiatique. Les grands penseurs de l'espace public aujourd'hui ont justement pour objectif de dépasser les stricts contours qui sont ceux de l'espace médiatique et d'envisager un espace qui déborde l'espace médiatique. Par exemple, quelqu'un comme Jürgen Habermas, qu'on a déjà cité ce matin, qui est un grand penseur de l'espace public, hein, qui est dans le sillage d'un auteur qui s'appelle Immanuel Kant, dont le nom doit sans doute vous évoquer quelque chose, essaye de penser ce concept de publicité, hein, de caractère public, avec une notion d'espace public, où justement, il dit, le pouvoir se doit d'être une forteresse assiégée, c'est l'expression qu'il utilise, assiégée par toute une série de contre-pouvoirs qui sont issus de la société civile, qui sont des espaces de discussion où des médias autres que les médias mainstream, ou des associations, des organisations, des lieux de discussion multiples et variés, qui peuvent être sur Internet ou ailleurs, vont faire remonter des doléances et vont questionner certaines décisions qui sont prises par le politique. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans des sociétés où la parole publique est complètement captée et par les médias mainstream. Point. Je pense pas du tout. Je pense que effectivement, il y a et surtout en France, il y a toute une série de médias alternatifs qui ont une parole qui porte. Je pense à Mediapart ou à d'autres ou à d'autres qui ont une parole qui. Alors certes, c'est pas les mêmes audiences ou c'est pas les mêmes taux d'audience, mais en tout cas, ces médias existent et se font entendre. Donc je pense pas qu'il y ait quelque chose comme une captation totale par les médias mainstream et qu'ils aient un rôle à ce point essentiel dans la restriction de nos libertés. Alors pour ce qui est de la différence entre désobéissance civile en état d'exception ou désobéissance civile en temps normal, c'est une question qui est une question de technique juridique à laquelle je suis un peu en mal. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce qu'on observe quand même, c'est que en régime d'exception, les punitions sont bien plus fortes qu'en temps normal. C'est-à-dire on ne sait pas bien quel processus délibératif est à la base de certains choix. comme le montant des amendes, comme ce genre de choses qui peuvent parfois, parce que ça se doit d'être désincitatif, sont évidemment un peu parfois un peu lourdes ou voire extrêmes. Mais sur le statut même ou la définition même de la désobéissance civile dans ces deux cas, c'est une question un peu technique à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Ensuite, sur l'articulation entre liberté et sécurité, évidemment, c'est une question importante. C'est une question qui revient souvent. Hein. Vous vous rappelez de ce slogan lors des manifestations qui était « Pour votre sécurité, nous abrogeons vos libertés », qui est souvent revenu. Alors, quelle place accorder ici, dans ces cas-là, à la souveraineté populaire ? C'est évidemment... Alors, souveraineté populaire, ça dépend ce qu'on veut évoquer par cette expression ici. J'ai toujours un peu du mal avec la question, l'idée même de peuple, parce que, bien évidemment... c'est quelque chose qui n'existe pas matériellement. Il y a des individus, mais on a bien du mal à désigner ce qu'est le peuple, si vous voulez. Personne n'a jamais vu le peuple en tant que tel agir, même si dans une certaine tradition française très à gauche, le peuple, c'est le peuple en acte, c'est le peuple dans la rue, etc. Malgré tout, si vous voulez... le peuple est un concept qui pose des difficultés. Il y a d'abord et avant tout des individus. Alors ici, sans doute que vous voulez dire que pour arbitrer cette articulation entre liberté et sécurité, il faudrait s'en remettre à l'opinion publique et à ce que les opinions populaires pourraient penser ici. Sans doute tout un enjeu qui est celui de désormais, par le biais de tous ces mécanismes qu'on a pu déjà mentionner, qui sont ceux de la participation, donc les mécanismes de démocratie participative ou les mécanismes de démocratie délibérative, de justement pouvoir mettre en débat, publiquement en débat, ce à quoi nous sommes prêts de renoncer ou à sacrifier pour régler ces crises-là. Ça semble sans doute essentiel, effectivement, d'avoir quelque chose comme des débats publics de fond sur ces questions. Ouais, très certainement.
Voilà. Je vous propose qu'on arrête là, hein, Müller. Voilà. Et encore une fois, merci à Tristan Storm et à nos deux intervenants de la journée.